La vie de Saint Martin, fêtée le 11 novembre. Saint Martin est né en 320, en Hongrie. Son papa était un tribun militaire, malheureusement païen, si bien qu'il vécut toute sa jeunesse dans le paganisme. Son papa était un païen pratiquant, comme on dit. Mais voyez l'importance du bon exemple. Grâce à l'exemple de ses camarades d'école qui étaient chrétiens, petit à petit, Martin se rendit compte que les chrétiens étaient bien meilleurs que les païens. Ils étaient plus humbles, plus patients, purs, charitables. Si bien qu'à l'âge de 10 ans, en cachette, il commença à fréquenter le catéchisme avec ses camarades d'école. Il s'inscrivit même pour devenir catéchumène, pour se préparer au baptême, toujours en cachette de ses parents. Son papa se rendit bien compte que Martin fréquentait les chrétiens et qu'il risquait très bien de devenir chrétien un jour. Alors il décida de l'éloigner des chrétiens et de cette religion. Si bien que son papa força le petit Martin, qui n'avait que 15 ans, à devenir militaire. Il partirait ainsi pour un pays lointain, et au milieu de ses camarades païens, il n'aurait plus aucune envie d'être baptisé. Alors Martin, à l'âge de 15 ans, revêtit la cuirasse de l'armée romaine et partit pour les Gaules. Il partit avec un pincement au cœur, bien sûr, mais confiant en la Providence. Il voulait faire le bien, aimer Dieu. Il savait que Dieu l'aiderait. Comment? C'est le secret du bon Dieu. Au milieu du tumulte de la vie de soldats et des discussions grossières de ses militaires, Martin conserva une pureté irréprochable. Comment? Par deux moyens. Le premier, c'est qu'il voulait absolument plaire à Dieu. Il le voulait. Et le deuxième moyen, ce fut la prière. Dès qu'il avait un moment libre, ou bien à l'heure de la sieste, il faisait semblant de dormir et priait le bon Dieu pour pouvoir un jour être baptisé et pratiquer la religion de Jésus-Christ. Il ne se contentait pas seulement de prier, et il faisait aussi les œuvres que la foi lui inspirait. La foi nous dit que tout ce qu'on fait aux autres, on le fait à Jésus. Alors les autres, pour lui, c'était les autres soldats. Alors il se comportait avec eux comme s'il c'était Jésus. Il leur rendait tous les services possibles, supportait leur méchanceté, leur partageait la solde. Parfois même, il donnait toute sa solde à des pauvres. Et quand il fallait faire son métier de soldat, il le faisait avec le plus de miséricorde possible, en essayant de faire le moins de dégâts possible, tout en obéissant à son supérieur. Ceux qui l'ont connu à l'armée disent qu'il était très doux, patient, courageux aussi, très fidèle à ses devoirs, humble et charitable. Comme son père était tribun, il avait droit à avoir des serviteurs à l'armée, mais il les renvoya tous et il se contenta d'un seul. Et souvent c'était lui-même, Martin, qui servait son serviteur. Vous rappelez que Jésus a dit « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. » Et si nous, les enfants de Dieu, nous voulons imiter Jésus, il faut aussi servir les autres. Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. Martin passa par toutes sortes de villes des Gaules. Il passa par Lyon, par Boulogne, et enfin il arriva au nord de la France, près d'Amiens. Il avait pris l'habitude à cette époque, à la fin du mois, de donner toute sa paye aux pauvres, tout ce qui lui restait. À Amiens, en hiver, c'est là qu'il rencontra ce pauvre. Martin n'avait que 17 ans, il était déjà officier. Il rencontra un pauvre qui grelottait, qui allait mourir de froid, et il ne lui donna pas tout son manteau, car son manteau appartenait à l'armée, mais il en donna la moitié. Et pendant la nuit, il eut un songe où il vit Jésus entouré de toute une myriade d'anges, et Jésus était revêtu de la moitié du manteau que Martin avait donné aux pauvres, prouvant ainsi que tout ce qu'on fait aux autres, on le fait à Jésus. Et Jésus dit aux anges, « Regardez, Martin, il n'est que catéchumène, mais aujourd'hui c'est lui qui m'a revêtu de ce manteau. » Le matin, lorsqu'il se réveilla, il prit la résolution de se faire baptiser dès qu'il trouverait un prêtre. Il put être baptisé quelques jours plus tard, et il décida après son baptême d'en finir avec l'armée. Il voulait faire plus, faire mieux, que de tuer des gens. Mais il avait un ami soldat, un capitaine, comme on dirait aujourd'hui, un officier, qui lui demanda un service. Martin était un bon soldat, un bon chef, et son ami lui demanda de lui rendre service encore quelque temps pour l'aider, car les Germains étaient en train de se révolter et d'essayer d'envahir l'Empire romain. Martin, par charité, accepta, et ce fut un gros sacrifice, puisqu'il resta encore 2 ans à aider son ami. 2 ans plus tard, nous sommes en 337, Martin décide enfin de signer son congé. Alors le chef le convoque, le chef suprême de l'armée, en lui disant « Martin, vous êtes un lâche. Vous donnez votre congé la veille d'une grande bataille. » « Oh, pardon, je ne savais pas que les Germains allaient livrer bataille demain. Si c'est comme ça, j'accepte de rester encore, et je veux bien être en première ligne. » « Très bien, vous serez en première ligne, et après la bataille, vous serez libre. » Martin passa toute la nuit à prier. Le lendemain matin, une délégation des Germains arriva pour signer la paix. Martin avait obtenu beaucoup de choses par sa prière, et toute sa vie, il croira en l'efficacité de la prière. Dieu nous donne plus que ce que nous demandons, quand ce que nous demandons est une bonne chose. C'est souvent la foi qui manque et qui fait qu'on n'obtient pas ce qu'on demande. Croyez que ce que vous demandez, vous l'obtiendrez, et vous l'obtiendrez, a dit Jésus. Saint Martin, qui était un soldat, décida de rester soldat, mais soldat du Christ, et de faire la guerre aux démons, car il se rendait compte que les démons faisaient des ravages terribles et perdaient des âmes. Ceux qui mouraient sur les champs de bataille pouvaient aller au ciel, mais ceux dont l'âme était tuée par le démon ne pourraient pas aller au ciel. Et la Providence permit qu'il rencontra un autre saint, Saint Hilaire, à Poitiers. Il était l'évêque de cette ville. Il en vint vite le disciple, et Saint Hilaire voulait l'ordonner prêtre. Mais Saint Martin, par humilité, refusa. Il accepta néanmoins d'être ordonné exorciste, c'est-à-dire, on reste encore séminariste, mais on reçoit le pouvoir de faire des exorcismes, de chasser les démons. Saint Martin, rempli de reconnaissance envers Dieu, qu'il avait mené sans encombre jusqu'à ce jour, qu'il avait baptisé, fait rencontrer Saint Hilaire, voulut aussi rendre le bien pour le bien. Il décida de faire le long voyage jusqu'en Hongrie pour essayer de donner la même grâce, la conversion, à ses parents et à sa famille. Il passa peut-être par le col du Grand Saint-Bernard, toujours est-il qu'il arriva sans encombre en Hongrie, où ses parents furent tout heureux de le rencontrer. Mais dès qu'il parla de christianisme, son père refusa de l'écouter et le chassa de la maison. Il eut quand même la joie de convertir sa maman et la plus grande partie de sa famille, mais pas son père. Espérons que Dieu l'aura sauvé et converti. Martin ne l'a pas su. C'est une des croix que connaît l'apôtre, de pouvoir faire du bien un peu partout, mais pas dans sa famille. Dieu le permet pour son humilité. En revenant, Martin passa cette fois-ci au petit Saint-Bernard, du côté de l'Italie. Et là, il rencontra des gens pas très sympathiques, des brigands. Il lui tombe dessus, l'attache avec une corde, lui met un couteau sous la gorge et lui demande s'il a de l'argent et si sa famille a de l'argent. Martin n'avait pas peur. T'as pas peur? On peut te couper la gorge d'un coup de couteau. Non, j'ai pas peur. C'est plutôt vous qui devriez avoir peur.
Comment?
Tu veux qu'on te coupe la gorge? Tu veux nous menacer? Non, je vous dis simplement la vérité. C'est vous qui devriez avoir peur. Parce qu'en agissant ainsi, vous allez vous damner. Vous allez passer votre éternité à griller en enfer. Les démons vont vous torturer et ce ne sera jamais de fin. Tandis que moi, si vous me tuez, j'espère bien que le mon Dieu me prendra dans son paradis puisque je n'ai pas fait de mal.
Les brigands n'avaient jamais entendu ni un tel courage, ni de telles paroles.
Le chef partit pensif. Il revint quelques minutes plus tard, sans couteau à la main, demanda pardon à Martin, le fit détacher, lui se convertit et devint même disciple de Saint Martin quelques années plus tard. N'ayons pas peur de dire la vérité. Parfois les gens ont besoin de l'entendre, mais disons-la toujours avec charité. Comme dit Saint Augustin, ne pas dire la vérité, c'est manquer de charité. Mais dire la vérité sans charité, c'est pas la peine non plus. Il faut dire la vérité avec charité. De même qu'un médecin doit dire à un malade qu'il est malade, s'il veut qu'il guérisse, sinon c'est un assassin. En descendant de cette montagne, Martin fait une rencontre un peu plus insolite encore. Il rencontra ni plus ni moins que le démon, qui cria contre lui en disant
« Martin, je te déteste, tu m'arraches tous les jours des âmes, je te ferai la guerre jusqu'à ta mort et je te damnerai. »
Martin fit le signe de la croix et le démon disparut. N'ayons pas peur du démon, c'est le roi des menteurs et ne peut pas nous mordre si on n'accepte pas de faire le mal. De retour dans les Gaules, Martin commença à connaître la croix, la persécution. En effet, à cette époque, beaucoup d'évêques et de prêtres étaient devenus hérétiques. C'était l'hérésie de l'arianisme, des gens qui disaient que Jésus n'était pas Dieu. Et ces gens étaient tellement nombreux qu'ils réussirent à exiler, à chasser Saint-Hilaire et Saint-Martin, en les accablant d'injures et de coups et de crachats. Saint-Martin repassa les Alpes, et cette fois il arriva à Gênes, et il fut exilé sur une petite île qui s'appelait Gallinaria, ou l'île du diable, parce qu'un jour des habitants avaient vu un monstre affreux qui circulait sur cette île, et ils avaient tous déserté cette île. Martin fit le signe de la croix et partit plein de confiance sur cette île. À peine avait-il posé le pied sur l'île qu'il entendit des hurlements épouvantables et vit une foule de démons qui sortaient de l'île et plongeaient dans la mer. Sur cette île, il n'y avait pas grand-chose à manger, et Martin parfois était poussé à manger des racines et des herbes sauvages. Et un jour, le démon, qui voulait sa perte, lui fit manger, sans qu'il s'en aperçût, de l'herbe de plantes vénéneuses. Martin tomba gravement malade. Mais il implora Jésus en lui disant, « Jésus, si vous voulez que je vous fasse connaître et aimer, que je sois votre apôtre, guérissez-moi par les mérites de votre sainte passion. » Et il fut aussitôt guéri. Quand on demande à Dieu de travailler pour lui, ou d'être son apôtre, ou d'être victime, ce sont des prières que le bon Dieu accorde toujours. Quelque temps plus tard, comme la persécution était terminée, Martin put revenir dans les Gaules. Nous sommes en 362. Martin a 42 ans. Il fonda alors un monastère, le premier monastère des Gaules, le monastère de Ligugé. Il avait eu quelques disciples qu'il avait suivis depuis sa première visite des Gaules, et il put construire un monastère, et de là, il rayonnait dans toute la région pour aller faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des missions. Car à l'époque, les Gaules étaient remplis de temples païens, de montagnes surnommées d'écoles de druides, et on y priait, on y adorait toutes sortes de démons. Dans ce monastère, où il resta très longtemps, saint Martin fit une sorte de séminaire où il préparait tous ses disciples à devenir des prédicateurs. C'est avec une immense joie qu'il avait revu Saint-Hilaire, et cette fois, Saint-Hilaire lui demanda d'accepter de devenir prêtre et même évêque pour pouvoir faire un plus grand apostolat. Martin fut donc ordonné, sacré évêque. Il put par la suite faire d'autres prêtres qui allaient prêcher dans toutes les campagnes, car à l'époque, le mot païen voulait dire campagnard. Paganus veut dire la campagne en latin, car toutes les campagnes des Gaules étaient remplies de païens. Le bon Dieu, qui fait toujours bien toutes choses pour pouvoir convertir ces païens, donna à saint Martin le pouvoir de faire une quantité de miracles, dont le premier fut la résurrection d'un mort, ce qui n'avait jamais été constaté des yeux de ces païens. Immédiatement, le Dieu de saint Martin, Jésus, fut reconnu comme le vrai Dieu, puisqu'il pouvait ainsi ressusciter les morts. De même, quelque temps plus tard, une épidémie de peste ravageait toute la province, et les gens mouraient comme des mouches. Licantius, qui était le gouverneur de la province, un païen, qui savait que Martin faisait parfois des miracles, va lui demander de prier son Dieu, s'il était le vrai Dieu, de mettre fin à ce fléau. Martin ne se contenta pas de faire une petite prière. Il pria 7 jours et 7 nuits, en jeûnant, et après cette grande prière, le fléau disparut. Et non seulement il disparut, mais aussi le paganisme de cette région, car les gens avaient compris que Jésus était le vrai Dieu. Le gouverneur lui donna une énorme somme d'argent pour le remercier, et Martin ne garda pas un centime, tout partit pour les pauvres. Il fit même construire un deuxième monastère, puisqu'il fallait encore d'autres prédicateurs, l'apostolat grandissant, à Marmoutier. Un jour, un militaire vint demander à saint Martin d'entrer dans son monastère. Saint Martin lui demande : Vous êtes marié ?
Oui, je suis marié.
Alors je ne peux pas vous prendre. Que va devenir votre femme ? Et le militaire lui répondit :
Ma femme aimerait aussi devenir religieuse.
Martin comprit qu'il fallait aussi faire quelque chose pour les femmes. Il trouva, quelques kilomètres plus loin, une jolie colline où il fonda un premier monastère pour les femmes. Quelque temps plus tard, ce même militaire vint trouver Martin lui disant :
Maître, je m'ennuie beaucoup. Et si c'était possible, est-ce que ma femme pourrait habiter dans le même monastère que moi ?
Mais c'est pas possible.
Mais elle pourrait m'aider et m'encourager.
Non, c'est pas possible.
Et comme le militaire avait de la peine à comprendre, Martin lui dit :
Vous avez été militaire. Vous avez fait des batailles.
Oui.
Quand vous étiez en campagne, en bataille, vous preniez votre femme avec vous ?
Oh non.
Est-ce que vous en aviez parfois la tentation ?
Ah non, pas du tout. Elle m'aurait gêné.
Eh bien, c'est la même chose. Maintenant que vous livrez la bataille contre le monde, contre les démons, contre vous-même, votre femme vous gênerait. » Le militaire comprit tout de suite, remercia Saint-Martin et partit tout content, la tentation ayant disparu. N'ayons pas peur de révéler nos tentations à notre confesseur. Éclairés par l'Esprit Saint, ils pourront nous aider, car nous sommes mauvais juges pour nous-mêmes.
Dieu n'épargne pas sa croix à ses amis. La Sainte Famille a connu la croix, Jésus lui-même est mort sur la croix, et le chrétien qui suit Jésus connaîtra la croix. Saint Martin eut des ennemis, et aussi des amis qui l'ont fait souffrir. Par exemple, un jeune enfant qu'il avait récupéré, nourri, éduqué, formé et ordonné prêtre, qui s'appelait Brice, devint infidèle. Il quitta la soutane, se mit à mener la belle vie, faisait un trafic de chevaux et même d'esclaves. Et quand il rencontrait Martin, il le traitait de tous les noms, de radoteur, d'hypocrite, et lui criait à la figure. Martin supportait sans rien dire. Il priait beaucoup pour sa conversion. Et un beau jour, Brice, au milieu de son emportement, se sentit tout d'un coup touché par la grâce. Les prières sont toujours efficaces, même si Dieu nous fait parfois attendre. Il se jette à genoux aux pieds de Saint-Martin et lui demande pardon. Non seulement Martin lui pardonna, non seulement il ne lui donna pas de pénitence, sachant que Dieu s'occuperait de cela, mais il choisit Brice pour être son successeur quand il serait mort. En effet, à la mort de Saint-Martin, Brice devint le deuxième évêque de Tours et Dieu se chargea de sa pénitence puisqu'il fut exilé, chassé à coups de pierre de la ville de Tours. Mais avant cela, les autres moines et religieux reprochaient à Martin sa trop grande patience, bonté, pourquoi ne punissait-il pas le Brice? Pourquoi il ne la voyait-il pas promener? Alors Martin de dire, comment? J'enverrai promener Brice, alors que Jésus, durant 3 ans et demi, a supporté Judas, se possédait du démon, et il a tout fait pour le convertir, en l'appelant même ami le jour même de sa mort. Non, je ne suis pas supérieur à Jésus. Et d'ailleurs, ajoutait Saint-Martin, pourquoi me plaindre? Celui qui m'injurie ne me fait pas du mal. Au contraire, il me fait gagner des mérites. Il se fait du mal à lui-même, à son âme. C'est pourquoi j'en ai pitié. Et je sais que la patience, la douceur et la prière obtiennent la conversion plus que la colère et l'entêtement. Retenons la leçon. Saint-Martin était d'une grande patience aussi avec les paysans, avec les païens des campagnes. C'était surtout vers eux qu'il donnait son temps de son apostolat. Ces paysans étaient très superstitieux. Ils croyaient à tout ce que les druides leur disaient, et ils pensaient devoir faire tout ce qu'ils voyaient en rêve. Imaginez par exemple que vous rêvez que vous montez sur le plus haut des arbres de la forêt, et puis que vous devez rester là-haut 3 jours, parce que vous l'avez vu en rêve. Eux, ils croyaient que c'était leur Dieu qui leur faisait signe de faire ça, et ils obéissaient. Ce fut avec beaucoup de patience que Martin les convertit. Il y avait aussi, dans une localité appelée Amboise, un immense temple en forme de cône, avec une immense statue, une immense idole. Martin essayait de convertir les gens, mais sans succès. Alors il se mit en prière et toute la nuit, il pria pour leur conversion. Et Dieu va les exaucer d'une façon inattendue. En effet, un ouragan extraordinaire se leva le lendemain matin. Le temple et l'idole tombèrent, se brisèrent, et les paysans reconnurent que c'était le Dieu de Martin qui avait fait cela. Et ils se convertirent et Martin construisit une première église à Amboise. Une autre fois, Martin arrive dans une ville appelée Léprosus, qui vient du mot lépreux, certainement qu'il y avait des lépreux dans la région. Là aussi, il y avait un temple très fréquenté. Pas de succès, Martin se fit même chasser à coups de fourche et à coups de cailloux.
Alors il se mit en prière, et voilà que des anges apparurent à Saint Martin et lui dirent « Martin, retourne demain, n'aie pas peur, on sera là pour te protéger et pour aider à faire ton ministère. » Le lendemain, Martin se rend sur place, immédiatement la foule vient vers lui pour essayer de le chasser, de le tuer. Martin, avec sa hache, commence à taper, cogner dans le bois du temple, à casser les statues, et les anges paralysèrent les païens qui se sentirent sans force, subjugués miraculeusement, et ils reconnurent la présence d'un Dieu supérieur à leur Dieu. Ils se convertirent aussi. N'oublions pas que nous sommes toujours assistés de notre ange gardien. Il faut l'utiliser, si j'ose dire. Il faut l'invoquer souvent, il peut beaucoup nous aider. Malheureusement, nous oublions de lui demander de l'aide. Une autre fois encore, Martin a voulu détruire un temple, et cette fois il le détruisit par le feu. Mais le démon voulut se venger, et il changea la direction du vent pour propager le feu vers le village, et les maisons commencèrent à prendre feu. La foule commença à grogner, voulait se venger sur Martin. Alors Martin se précipita, courut sur la première maison qui était déjà en flammes, il fit le signe de la croix sur tout le village, et le feu s'éteignit. Conversion instantanée du village. Puis peu à peu, ce ne fut plus lui-même qui devait détruire les temples, car sa renommée se faisait de plus en plus grande. Vous savez que les gens blaguent beaucoup, et ils commencèrent à raconter toutes les merveilles du Dieu de Martin, de Jésus-Christ. Et alors, arrivant dans les lieux où il y avait des temples, il suffisait à Martin de faire un sermon ou deux, et les villageois eux-mêmes mettaient leurs temples en miettes. Martin parcourut ainsi toute la Gaule. Il était infatigable. Ce fut lui le premier qui fonda ce qu'on appelle des paroisses, une église ou une chapelle ou un petit oratoire, où il laissait un prêtre ou deux ou plus d'après la grandeur de la paroisse pour continuer son travail. Le petit Martin, ce petit Hongrois chassé par son père, qui n'était au départ que catéchumène quand il vit Jésus pour la première fois, ce petit Martin était comme un petit grain de sénevé, ce grain de moutarde qui grandit et qui devient le plus grand arbre du jardin. Il faisait grandir dans les Gaules et dans l'Helvétie, donc la Suisse aussi, l'Église catholique, et il allait semer beaucoup de biens qui feront d'autres saints après lui. Il se rendit un jour à Trèves, où logeait l'empereur Valentinien Ier. Cet empereur était cruel, païen, et il avait décidé, le lendemain, de mettre à mort beaucoup de gens. Martin se rendit chez lui pour demander la grâce des prisonniers. Mais l'empereur, sachant qu'il arrivait, ferma toutes les portes et refusa de le voir. Alors Martin se mit à genoux et commença à utiliser son arme favorite, la prière. Il passa toute la nuit en prière. Au milieu de la nuit, le roi est réveillé par un drôle de bruit. Et une voix qui le réveille. « Valentinien, sors, ouvre les portes. Martin t'attend dehors. Tu oses dormir quand le Saint de Jésus-Christ est là dehors ?» Effrayé, Valentinien appelle ses serviteurs en leur disant d'ouvrir les portes. Mais on le prit pour quelqu'un qui avait rêvé et on ne lui obéit pas. Comme les portes étaient toujours fermées, de nouveau la voix retentit. « Valentinien, ouvre les portes ou il t'arrivera malheur !» Cette fois, c'est lui-même qui se rendit à la porte, qui les ouvrit, et il trouva Martin à genoux, les yeux fermés, priant. « Martin, je vous accorderai tout ce que vous voulez. » Et Saint Martin obtint la grâce de ses prisonniers. Martin jouissait d'une protection extraordinaire contre bien des ennemis. Un jour, quelqu'un l'attaqua par derrière avec un couteau pour planter ce couteau sur le dessus de son crâne. Il prend l'élan, va frapper, et au moment où la main atteignait le crâne de Martin, le couteau avait disparu. Conversion et pardon. Une autre fois, devant un temple que Martin voulait détruire, la foule s'élance vers lui
Et le chef de la foule prend son épée, va frapper. Ah! Quand il sent une douleur dans son bras qui se paralyse et qui se tord derrière son dos. Même chose, demande pardon, conversion, destruction du temple. Si l'on voulait raconter tous les miracles de saint Martin, on ne ferait que répéter toujours un peu ces mêmes choses. Il faut se résumer un peu. L'un des plus fameux miracles de saint Martin fut le miracle de l'arbre. Dans une région très paganisée, les gens étaient tellement fous qu'ils adoraient un grand arbre comme étant un dieu. Alors Martin se rend là vers cet arbre, prend une hache et commence à taper dedans. Les gens commencent à crier « Sacrilège, sacrilège, il va tuer notre Dieu !» comme si Dieu pouvait mourir. Alors Martin arrête la foule et dit « Écoutez, attachez-moi de ce côté de l'arbre. Vous allez le couper. L'arbre penche vers moi, donc il va tomber vers moi. S'il tombe pas, c'est que votre Dieu n'est pas un Dieu. S'il tombe et qu'il m'écrase, c'est que vous avez raison. » On attache Martin, on commence à couper l'arbre, il a fallu beaucoup de temps, et cette immense chaîne commence à pencher sur Martin, pencher, pencher. Martin réussit à se délivrer un bras, fit le signe de la croix, l'arbre s'arrêta, et commence à pencher de l'autre côté, et il tomba de l'autre côté. Oui, Jésus a bien dit, si votre foi était grande comme ce grain de sénévé, vous demanderiez à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, et elle vous obéirait. C'est la foi qui manque dans nos prières. Ou alors on demande des choses qui ne sont pas saintes pour nous. Saint Martin fit aussi beaucoup de guérisons, des muets, des gens mordus par des serpents, des lépreux. Il ressuscita aussi un enfant. Mais il gardait toujours l'humilité. Il savait que c'était Dieu qui faisait tous ces miracles, qui se servait de lui, il aurait pu se servir d'un autre. Et souvent, Martin, pour ne pas montrer qu'il était la cause du miracle, prenait de l'huile, ou de l'eau bénite, ou un objet béni, pour montrer vraiment que c'était pas lui, mais que c'était Dieu à travers lui ou à travers ses objets qui faisait ces miracles. Il n'a pas eu que du succès. Il a souvent été critiqué par des gens jaloux, d'autres évêques aussi qui étaient jaloux de lui, ou des hérétiques. Il fut même parfois frappé de coups, injurié, on lui cracha dessus. Dans chacune de ces occasions, il gardait la patience, sachant que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Jésus a été traité ainsi, il faut accepter aussi de payer les âmes par ce même prix de la croix. Il délivra aussi des régions qui étaient ravagées chaque année par la grêle, par un simple signe de croix. Il délivra surtout beaucoup de gens qui étaient possédés du démon. Quand on invoque des faux dieux, c'est-à-dire des démons, on appelle ça aujourd'hui de la magie noire, ou du spiritisme, ou du channeling, eh bien, on ne se frotte pas aux démons sans devenir la proie du démon. Martin en exorcisa beaucoup et il délivra beaucoup de possédés du démon. À l'époque, on ne les appelait pas des possédés, on les appelait, et le nom est resté, des énergumènes, des gens vraiment bizarres. Un épisode qui fera un peu sourire, mais qui montre que Dieu aime les petites choses, qu'il les récompense et qu'il punit les petits péchés, c'est l'épisode de Sainte Vitaline. Cette jeune vierge religieuse, qui maintenant est canonisée, était morte depuis quelques mois et saint Martin voulut se rendre en pèlerinage sur son tombeau. Et quand il y arriva, il entendit cette fille, cette religieuse, qui lui parlait en disant « Martin, priez beaucoup pour moi, je suis encore en purgatoire et je souffre beaucoup. Je souffre de toutes sortes de brûlures au visage. » « Comment, vous, Vitaline, vous qui avez vécu si saintement, vous êtes au purgatoire? Mais
Quel mal avez-vous donc fait ?
Oh, Martin, je passais trop de temps le matin devant le miroir à me contempler et à arranger mon visage.
Quel purgatoire devons-nous faire aujourd'hui, quand on pense à toutes ces modes et à tout ce temps qu'on passe devant son miroir.
Si les gens passaient au moins autant de temps à prier qu'à se contempler, ils seraient déjà des saints.
Saint Martin était très pieux. Il faisait aussi des pèlerinages. Il est même venu en pèlerinage à Saint-Maurice, en Valais, où il eut beaucoup à souffrir, car les moines de l'abbaye le prirent pour un vagabond et le chasseur.
Saint Martin se rendit sur le terrain du martyr, qu'on appelle Vérolier, et se mit à genoux et pria les saints martyrs de faire en sorte qu'ils ne repartent pas de là sans avoir quelques reliques pour les implanter en France. Et c'est alors qu'il vit sortir du terrain, du gazon, du sang. Il le récupéra avec une fiole et en donna même à ses ennemis, si on peut dire, ces moines qu'il avait chassés de l'abbaye. Et en revenant en France, il propagea le culte de Saint-Maurice et de ses compagnons grâce à ses reliques miraculeusement obtenues. Il eut à souffrir aussi de l'empereur Maximien. C'était un empereur qui défendait des hérétiques, des gens qui déjà préparaient l'hérésie qu'on va appeler les albigeois ou les cathares, qui feront beaucoup de morts dans l'Église. Il était le seul, avec saint Ambroise, à défendre la vérité. Vous voyez que ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Deux évêques pour toutes les Gaules qui défendraient la vraie doctrine contre tous les autres. Mais grâce à eux deux, la bonne doctrine se conserva, malgré bien des difficultés. Dieu dut même envoyer une fois un ange à saint Martin pour le réconforter, un peu comme Jésus au jardin des Oliviers, en lui disant « Bon courage, Dieu t'assistera encore ». Après cette vie bien remplie, on peut dire que Martin, ce petit grain de sénévé devenu un grand arbre, où toutes sortes de chrétiens ont pu se loger, devenir eux-mêmes de bons chrétiens et en faire d'autres. Martin arrivait à 84 ans. Il tomba malade, et on le suppliait de ne pas mourir, de ne pas les abandonner. Que deviendraient ses disciples sans lui? Alors Martin, pouvant à peine bouger et à peine parler, fit cette belle prière. « Seigneur, si je puis encore être utile à votre humble Église, eh bien, je ne refuse pas le travail. Que votre volonté soit faite. » Mais Dieu le voulait dans son paradis. Même au paradis, on travaille pour ceux de la terre. L'Église du ciel aide l'Église militante de la terre et l'Église souffrante du purgatoire. À ce moment-là, le démon tenta une dernière attaque. Il essaya de tenter Martin de désespoir ou avec d'autres tentations. Alors Martin fit le signe de la croix, se tourna vers cette bête qui lui apparaissait et lui dit « Qu'attends-tu de moi là, bête cruelle? Il n'y a rien en moi qui ne t'appartienne. Et déjà je pars pour le ciel, je le vois ouvert devant moi pour me recevoir. » Et après avoir prononcé ces paroles, il rendit son âme à Dieu. Saint Martin, si courageux, si charitable, si fort dans la foi, qui avait cru en l'efficacité de la prière, qui avait donné toute votre sueur et toute votre fatigue pour propager la dévotion envers Jésus-Christ et envers sa Sainte Mère, qui avait fondé tant de maisons pour que des chrétiens, des chrétiennes puissent se former et ainsi arriver plus sûrement au ciel. Faites-nous la grâce, à nous aussi, de travailler pour le Christ roi, pour Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous dire quand nous allons mourir, « Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton Seigneur pour l'éternité. » l'abbaye de Sainte-Zite. Zite veut dire vierge. Sainte Zite est née en 1218 dans un petit village du nord de l'Italie appelé Bonazzello. Ses parents étaient de très bons chrétiens. Sa maman s'appelait Bonissima, un surnom qu'on lui avait donné qui veut dire très bonne, la très bonne. Son papa s'appelait Jean et ils étaient pauvres, comme la famille de Sainte Jeanne d'Arc, et que Jésus qui a dit « Bienheureux les pauvres » allait donner des consolations spirituelles et célestes à ces gens qui n'avaient pas les consolations données aux riches. Un de ses frères eut même la vocation, et il passa toute sa vie en ermite sur le mont Lapellia. Le premier mot que ses parents apprirent à leur enfant fut le nom de Jésus. Et le premier travail, si on peut dire, que les parents apprirent à cet enfant fut le signe de la croix, joindre les mains, regarder au ciel en disant « Notre Père qui êtes aux cieux, aimez bien votre petit enfant ». Sa maman lui apprenait aussi à tout offrir, toutes ses actions, tous ses sentiments au bon Dieu pour lui faire plaisir. La maman lui parlait de l'immortalité de l'âme, de ce qu'il y avait après la mort, le ciel, l'enfer et le purgatoire. Il ne faut pas avoir peur de parler de ces choses-là aux enfants, car c'est le but de la vie. Et il faut arriver au bon endroit. Bonissima, sa maman, faisait mieux encore. Elle montrait le bon exemple. En effet, dans l'éducation, le plus important, c'est l'exemple, car les yeux sont plus vite convaincus que les oreilles. Sa maman, pourtant pauvre, ne refusait jamais l'aumône, ni le plus petit service. Sa journée était un exemple vivant d'une vie conforme à ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Zite aidait beaucoup sa maman dans le soin des ménages, dans le repassage, pour accommoder. Elle travaillait au champ et s'acquittait avec merveille de tous ses devoirs. Ensuite, à cause de sa vivacité naturelle, elle allait se livrer à quelques actions mauvaises. Elle se fâchait parfois, tapait du pied ou répondait un peu sèchement. Alors sa maman n'avait qu'à lui dire « Ma fille, ce que vous avez fait déplaît au bon Dieu. » Aussitôt la petite enfant demandait pardon et ne recommençait plus. Mais la vie, qui est un grand chemin de croix, allait réserver à la famille de Zite bien des épreuves. La première, ce fut l'épreuve de la séparation. En effet, ils étaient trop pauvres pour pouvoir même se payer à manger pour toute la famille. La maman lui dit un jour, « Ma chère enfant, il faut nous séparer. Tu dois aller travailler dans une famille, faire la bonne pour pouvoir nous aider à vivre. Ta mère est malade. Nous avons besoin de ton travail. Alors, compte sur le secours de Dieu. Il sera ton protecteur. Tu n'as que 12 ans, mais Dieu ne demande pas l'impossible. Il t'aidera. » Zite partit de bon cœur, car elle savait que la voix des parents, quand elle est conforme au commandement de Dieu, est toujours la voix du ciel, car il tient la place de Dieu. Alors Zit partit de bon cœur pour la ville de Luc. C'est dans cette ville qu'elle allait passer toute sa vie, se sanctifier et faire une sainte mort. Elle partit sans bouder. Elle avait appris ça toute petite. Bouder ne sert à rien et nous fait même perdre le mérite des bonnes actions que l'on doit faire. Son maître, qui était très riche et qui avait beaucoup de serviteurs, il était commerçant, s'appelait Pagano di Fatinelli. Fatinelli était bon, mais colérique, s'emportait très facilement. Pourtant, la patience et la douceur de la petite Zit allaient être un exemple édifiant et même héroïque pour toute la chrétienté. La volonté de son papa et de sa maman avait toujours été pour elle l'expression de la volonté de Dieu. Elle obéissait à son maître comme à ses parents, ne montrant jamais de la mauvaise humeur, jamais d'hésitation quand il fallait obéir, qu'elle soit seule ou en présence de son maître. Vous connaissez le proverbe « Quand le chat est parti, les souris dansent ». Mais Zit, même ses maîtres absents, était toujours fidèle à faire son travail. Elle était très consciencieuse dans son travail, et les autres serviteurs, pas tous. Alors certains la calomnièrent par jalousie. Ils racontèrent toutes sortes de choses à son maître, faisant croire que quand il n'était pas là, elle était paresseuse et ne faisait rien du tout. Cette calomnie dura plusieurs années, et Zit supporta cela avec beaucoup de patience, rendant le bien pour le mal à ses serviteurs qui la calomniaient. Ainsi, elle est convertie par sa patience. Un beau jour même, elle descendait les escaliers, tenant quelque chose dans son tablier. « Qu'est-ce que vous portez là ?» lui dit le maître. « Mon maître, je porte quelques morceaux de pain sec à des pauvres. Montre-moi ça !» Elle ouvre le tablier. C'était des roses, toutes fraîches, d'une beauté extraordinaire. Le maître en fut si abasourdi que les larmes lui vinrent aux yeux et ne lui dit rien du tout. Arrivant ensuite chez ces pauvres, elle pensait ne leur offrir que des fleurs cette fois, mais elle trouva dans son tablier du bon pain. Dieu récompense toujours la charité, sur terre et aussi surtout de l'autre côté. Elle ne gardait rien pour elle. Elle envoyait à ses parents l'argent qu'elle gagnait et tout ce qu'on lui donnait en plus, pain, habits ou bonnes mains, tout passait chez les pauvres. Elle accepta même plusieurs fois d'être marraine des enfants, des serviteurs qui étaient dans cette maison. Et elle prenait ça très au sérieux et à l'anniversaire de ses filleules, elle se restreignait sur sa nourriture pour pouvoir acheter quelques cadeaux ou leur offrir quelque chose. La charité, c'est tout donner et se donner soi-même. Zit était très humble, elle ne savait même pas lire, mais elle savait que l'éducation était un peu faire le travail du prêtre. Dès que sa tâche matérielle était finie, elle s'occupait des jeunes enfants de ses maîtres. Elle cherchait surtout à leur inspirer trois amours et trois respects. L'amour et le respect de Dieu, celui des parents, et celui de la vérité. Depuis toute petite, comme Sainte Jeanne d'Arc aussi, elle avait promis à Dieu de rester vierge, de ne pas se marier, de vivre comme la Sainte Vierge, comme une religieuse, pour offrir un sacrifice supplémentaire à Dieu et pour être encore plus sûre de ne pas pécher. Comme un des serviteurs cherchait à faire du mal, à la séduire, et qu'elle ne pouvait pas faire autrement un jour, elle le griffa au visage pour s'enfuir. L'autre resta tranquille, voyant qu'elle était déterminée à ne pas pécher. La Sainte Vierge va lui apparaître. Un jour qu'elle avait la permission de ses maîtres, Zite se rendit avec quelques compagnes dans un pèlerinage, dans une petite église dédiée à la Sainte Vierge. Elles étaient toutes à jeun. Elles avaient marché toute la journée pour pouvoir communier. À l'époque, il ne fallait pas manger depuis minuit pour communier. C'est seulement le soir qu'elles purent rentrer chez elles, et Zite n'avait toujours rien mangé. Elle arrive dans un village qui s'appelait Saint-Pierre. Elle put communier avec ferveur, et quand elle repartit, elle sentit la faiblesse et elle voyait la nuit qui approchait. Épuisée par le jeûne et la fatigue, elle sentit ses forces défaillir et elle s'endormit sur le bord du chemin. Quand elle se réveilla, elle se rendit près d'une fontaine pour boire de l'eau. Et à ce moment-là, une dame les toucha à l'épaule. « Voulez-vous venir avec moi jusqu'à Luc ?» Zite ne fut pas troublée. Elle se sentit même fortifiée par une force inconnue. La faim, la soif, la fatigue, tout avait disparu. Elle se mit joyeusement en marche derrière cette femme inconnue. Il fallait traverser un fort appelé Ponte Tollo, un fort avec beaucoup de militaires qui ne se seraient pas privés de se moquer de ces deux femmes. Les portes s'ouvrirent toutes seules à l'approche des deux voyageuses, si bien que les militaires les laissèrent passer. Zite, arrivant dans la demeure de son maître, tendit la main à sa compagne inconnue pour la remercier et pour la prier de prendre un peu de repos, de nourriture, mais elle avait disparu. Une chapelle a été construite à cet endroit, près de cette fontaine, où la Sainte Vierge l'avait aidée, Zite, complètement épuisée, qui aimait la Sainte Vierge et qui la faisait aimer de ses filleuls et des autres serviteurs, avait été récompensée ainsi par sa Mère du Ciel. On ne fait jamais rien en vain pour la Sainte Vierge. Une autre fois, ce sont les anges qui vont l'aider. Zite aimait beaucoup prier. Elle aimait aussi visiter les églises, adorer le très saint sacrement, Jésus caché pour tous ceux qui étaient indifférents envers lui. Si bien qu'un jour, elle oublia de faire le pain. Elle rentre précipitamment chez son maître et les gens étaient étonnés de voir courir cette fille qui était toujours très digne. Arrivant à la maison, elle trouva dans la cuisine de beaux pains, tout chauds, délicieux, qui avaient été faits par les anges durant son absence. Les anges pouvaient bien l'aider, elle qui était si généreuse. À l'époque, il arriva quelque chose de grave dans ce village de Luc. En effet, le chef de la ville s'était très mal comporté et le pape avait interdit de célébrer la messe dans toute la ville et d'y donner les sacrements. C'était pour pousser le chef de la ville à faire pénitence, à se repentir. si bien que les gens devaient faire des dizaines de kilomètres pour aller à la messe. Zit le fit volontiers, et même tous les jours, tant elle était heureuse d'offrir ses sacrifices à Jésus à la messe pour les rendre plus fructueux pour les âmes, et aussi pour communier, car elle avait besoin du pain des forts pour rester forte. Nous l'avons dit, ce qui frappait surtout dans la vie de Saint Zit, c'était sa charité pour les pauvres. Et Dieu allait faire des miracles pour augmenter encore cette capacité à la charité et pour montrer aux autres combien Dieu aime la charité. Il y eut une famine à cette époque en Italie et ses maîtres permirent à Saint Zit de faire la charité avec discrétion, avec économie quand même, à tous les pauvres qui viendraient frapper à la maison. Mais la charité de notre sainte était si grande qu'elle ne regardait pas ce qu'elle donnait. Elle pensait à la parole de Jésus qui avait dit « Quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. » Et un jour elle s'aperçut que le coffre de blé était complètement vide. Qu'allait-elle dire à son maître? Elle fit ce qu'il faut faire dans l'embarras. Elle pria. Et son maître arriva. « Passez-moi la clé du coffre. Je vais aller contrôler ce qui reste comme blé. » Elle donna la clé, tremblante. Et quand son maître ouvrit le coffre de blé, il était complètement plein. Une autre fois, c'était la fête de Noël, Zit se rendit à la messe de minuit, et comme il faisait très froid et qu'elle avait peu d'habits, son maître eut pitié d'elle et lui dit « Vous n'allez pas sauter comme ça, vous allez attraper la crève. Tenez, je vous prête mon manteau, mais rapportez-le-moi, hein. Vous n'allez pas le donner à un pauvre, je vous connais. » « Oui, mon maître, je vous promets, merci beaucoup, à tout à l'heure, mon maître, je prierai pour vous. » Mais en arrivant à l'église, elle vit, assis dans un coin sombre, sous l'arcade, un pauvre avec des habits tout déchirés, qui grelottait de froid, et elle pensa, ce pauvre va mourir cette nuit de froid. Elle s'approcha de lui et lui dit, « Mon frère, je n'ai rien à vous donner, et le manteau que j'ai, c'est le manteau de mon maître, alors je le vous prête. Rendez-le-moi, s'il vous plaît, demain. J'habite telle rue, à tel endroit. Oh, merci ma sœur, merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende en grâce. » Elle pria avec beaucoup de piété durant la messe, mais quand elle sortit de l'église, plus de pauvres. Tout angoissée, elle se rendit à la maison, se demandant encore une fois ce qu'elle allait dire à son maître. « Ah, c'est comme ça. Je vous avais fait promettre de ne pas donner mon manteau. Et je pense que vous avez rencontré un pauvre, que vous lui avez dit « je vous le prête », et puis que quand vous êtes sorti de l'église, il n'était plus là, n'est-ce pas? C'est ça, ma fille ?»« C'est ça, mon maître. Mais qu'auriez-vous fait à ma place? Ce pauvre allait mourir. Allez, allez vous coucher. On verra ça demain. » Et voilà que pendant la nuit, à 3 heures du matin, on entend du bruit dans l'escalier. On
une sorte pour voir si c'était pas un voleur. Voilà qu'un homme d'une grande stature, avec un beau visage, vêtu du manteau que Zit avait donné à un pauvre, descendait l'escalier, déposait le manteau sur la table de la salle à manger, se retournait pour sourire aux habitants de la maison et partit sans ouvrir la porte. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme Saint Martin, Zit avait revêtu Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui souffre dans les pauvres, dans les malheureux et dans les pécheurs. Et s'en occuper, c'est faire du bien à Jésus lui-même. Une autre fois, un pauvre frappe à la porte en disant « Oh, ma sœur, je suis vraiment épuisé et malade. N'auriez-vous pas un peu de vin pour me redonner des forces ?»« Oh, ça tombe mal. Nous n'avons plus de vin. Mais attendez, je vais vous chercher quelque chose. » Et voilà que Zit arrive avec un bidon d'eau. Elle puise l'eau pour le mettre dans un verre et elle donne ce verre de vin à ce mendiant. Jésus avait fait pour elle les miracles de Cana pour lui donner la possibilité de pratiquer encore une fois la charité, cette vertu des vertus. Depuis ce jour-là, les maîtres de Zit lui laissaient tout faire, lui donnaient tout ce qu'elle demandait pour les pauvres, car ils étaient vraiment convaincus que Dieu agissait avec elle et par elle. Zit arriva ainsi à l'âge de 54 ans, où, épuisé, le 27 avril, un mercredi, le jour de Saint Joseph, le patron de la bonne mort, elle rendit sa belle âme à Dieu. Tout le jour et toute la nuit, une grande étoile brilla au-dessus de la ville de Luc. Après ses funérailles, du tombeau de Saint Zit coulait une liqueur très parfumée. On en mit sur les malades qui furent guéris, on en mit même sur le corps d'un mort qui ressuscita. Les miracles ne se comptèrent plus, si bien qu'on venait maintenant en pèlerinage au tombeau de Saint Zit, comme on va nous aujourd'hui à Lourdes ou à Fatima. Pourtant, un jour, un homme osa se moquer d'elle en disant « Qu'est-ce que vous allez là-bas? Il n'y a pas de miracle là-bas. C'est le diable qui vous trompe. Elle n'a pas plus sainte que moi, cette bonne femme. Et... » Aussitôt, l'homme devint muet. Il reconnut sa faute, demanda pardon et parcourut toute la ville à pieds nus, la corde au cou, vêtu d'un sac de patates, pour demander pardon publiquement d'avoir scandalisé les gens par ses paroles. Puis il revint à l'église où est enterré Saint Zit. Il pria devant son tombeau, demanda pardon, et il retrouva la parole. Il fut complètement guéri. Terminons cette belle vie de Saint Zit par une belle maxime qu'elle disait. Les servantes ou les serviteurs qui sont paresseux ne peuvent pas se considérer comme pieux. En effet, si vous êtes pieux, mais paresseux, votre piété est fausse. Celui qui a la piété combat aussi la paresse. » Sanzit, qui avait mené une vie toute simple, mais toute laborieuse et charitable, pauvre, pure, toute dévouée à vos maîtres et à votre prochain, qui avait sacrifié votre jeunesse pour aider vos parents qui étaient pauvres. Vous avez ainsi imité presque parfaitement la très sainte Vierge Marie, la servante du Seigneur. Apprenez-nous à rendre service. Apprenez-nous à penser aux autres. Rappelez-nous votre épisode du manteau, pour que nous sachions bien que ce que nous faisons aux autres, c'est à Jésus que nous le faisons. Un jour, nous recevrons dans le ciel le centuple, même pour un verre d'eau que nous aurons donné à nos frères. Ainsi soit-il.
Sainte Sabine, qui a été martyrisée en 122. Sainte Sabine était une des plus grandes dames de Rome. Son mari était un grand personnage, il s'appelait Valérien, mais il était mort. Il avait laissé à sa femme une immense fortune et un nom très renommé dans toute la ville de Rome. Tout le monde la respectait. Voilà qu'un jour, car Sabine était païenne, elle reçut chez elle une esclave chrétienne qui venait de Syrie et qui s'appelait Séraphie. Elle fut intriguée par cette esclave car elle était beaucoup plus patiente, aimable et elle faisait bien son travail. Petit à petit, à force de questions, et comme la chrétienne était missionnaire, elle découvrit ce qu'était la religion catholique. Elle demanda à être instruite. Puis elle fit connaissance d'un prêtre et enfin elle fut baptisée. Mais à cette époque, on dénonçait tous ceux qui étaient chrétiens car on avait une récompense. Alors Séraphie fut dénoncée comme chrétienne auprès du magistrat de Rome. Un jour, quelques soldats arrivent à la maison. « Ouvrez, au nom de l'empereur !» Sabine comprend aussitôt qu'on veut emmener son esclave et la martyriser. Elle fait barricader les portes et empêche les soldats de venir. Mais Séraphie dit à sa maîtresse, « Madame et ma mère, laissez-moi aller où on m'appelle. Vous, priez pour moi, que je reste fidèle à Jésus-Christ jusqu'au martyr, jusqu'à la mort, car je suis bien indigne de vivre après tous les péchés que j'ai commis. Mais je suis bien heureuse de mourir pour Jésus et d'entrer ainsi directement au ciel. » Séraphie, vos paroles me touchent droit au cœur, mais je ne peux pas vous laisser toute seule. J'irai avec vous et je mourrai avec vous comme chrétienne. Préparez ma litière, dit-elle à ses serviteurs. Alors voilà qu'on emmène chez le préfet l'esclave enchaînée, suivie de sa maîtresse, dans une des plus riches litières de Rome. Le préfet, Berylus, fut vraiment peiné de voir cette grande dame se nommer chrétienne. « Madame, à quoi pensez-vous? Vous dérogez votre rang.
Avez-vous oublié quelle grande dame vous êtes? N'avez-vous pas oublié qu'elle était illustre, votre mari? Ne craignez-vous pas la colère des dieux? Alors, ne suivez pas la secte des chrétiens et n'écoutez pas cette sorcière que nous avons arrêtée chez vous. Restez fidèles aux dieux. Sabine répondit. Plût à Dieu que cette sorcière, comme vous dites, vous ayez aussi éclairé et montré que le culte des idoles est abominable, ainsi que la morale perverse que vous rendez à ces idoles. Seule la religion chrétienne, la religion du vrai Dieu, donne une âme pure qui plaît à Dieu et fait entrer au ciel. Mérulus n'osait pas martyriser cette grande dame. Il la renvoya chez elle avec son esclave en disant qu'il demanderait à l'empereur ce qu'il devait faire. 3 jours plus tard, voilà que les soldats reviennent, cette fois avec un papier de l'empereur, qui permet de les arrêter toutes les deux et de les tuer toutes les deux. Cette fois, elle suivit Séraphie à pied. Séraphie fut longtemps martyrisée par 2 Égyptiens qui s'en donnaient à cœur joie, mais Jésus l'aidait à supporter souffrance après souffrance, si bien que le 28 juillet, elle rendit son âme à Dieu dans le martyre et monta droit au ciel, chassait sa couronne. On laissa Sabine faire l'enterrement de son esclave. Elle lui donna son propre tombeau, qu'elle enterra avec beaucoup de respect, car c'était le corps d'une sainte, le membre vivant de Jésus-Christ. Toutefois, le préfet la renvoya chez elle. Il ne parlait plus de la tuer ou de la mettre en prison. On avait trop peur de faire mourir une si grande dame. Alors, Sainte Sabine s'adonnait à toutes sortes de bonnes œuvres. Elle n'avait pas peur de se montrer chrétienne, partout. Elle distribuait de larges aumônes, visitait les malades, allait jusque dans les cachots pour secourir les malheureux. Elle visitait les chrétiens prisonniers pour leur foi. Elle n'avait pas peur de s'exposer aux martyrs et aux moqueries des païens. Mais comme son exemple en convertissait d'autres, cette fois l'empereur ordonna qu'on l'arrête. Elle fut conduite devant un autre préfet, appelé Elpidius. N'es-tu pas Sabine, la veuve du grand Valentin? Oui, c'est moi. Pourquoi tu rejetais les dieux et l'adoration de l'empereur? Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, car par sa servante Séraphie, il a daigné m'éclairer, me purifier des péchés dans le baptême, me délivrer de la servitude des démons et me tirer des erreurs où vous êtes vous encore, vous qui adorez des morceaux de pierre. Tu prétends donc que non seulement nous, mais encore l'empereur, notre maître, adore les démons et non pas les dieux? Oui, vous adorez des démons. Et le seul vrai Dieu, vous ne l'adorez pas, Jésus-Christ, qui est descendu sur la terre et qui a montré sa divinité, qu'il l'a prouvé en accomplissant toutes les prophéties, en faisant de grands miracles, en se ressuscitant lui-même après 3 jours et en menant une vie sainte, tellement sainte qu'aucun homme ne peut l'imiter. Je te dis que si tu sacrifies pas aux idoles, tu seras condamné à mort par le glaive. Je ne sacrifierai pas. Je ne suis pas folle. Je suis chrétienne. Je sacrifie à Dieu et non pas aux démons. Elle gardait toujours son calme. Et c'est ainsi que le 29 août 122, Sainte Sabine entrait dans le ciel après un glorieux martyr. À que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il perd son âme? Sainte Sabine avait tout perdu, mais elle avait gagné l'éternité. Saint Jean Chrysostome dit à propos de la patience, « Sachez que la vertu de patience est celle qui nous assure le plus la perfection. Et s'il la faut avoir avec les autres vertus, il faut aussi l'avoir avec soi-même. Ceux qui aspirent au pur amour de Dieu n'ont pas tant besoin de patience avec les autres, mais avec eux-mêmes. Et à propos de l'aumône, il disait « Nourrir Jésus-Christ affamé est chose plus grande que de ressusciter les morts au nom de Jésus. Dans un cas, c'est vous qui êtes le bienfaiteur de Jésus. Dans l'autre, dans le miracle, c'est lui qui est votre bienfaiteur. Quand vous faites des miracles, vous devez quelque chose au bon Dieu. Mais quand vous faites l'aumône à un pauvre pour l'amour de Dieu, c'est Dieu qui vous doit quelque chose. » Sainte Sabine, qui vous êtes convertie si rapidement quand vous avez compris votre erreur et connu la vérité, qui avez méprisé le haut rang où vous étiez, qui avez donné toutes vos richesses, qui avez préféré la mort rapidement plutôt que de vivre longtemps, faites-nous la grâce de mépriser les biens de ce monde, de les utiliser uniquement pour servir Jésus, sauver les âmes à Jésus et la nôtre, et faites que nous n'ayons pas peur devant la mort ou le sacrifice, mais que nous n'ayons qu'une seule peur, perdre notre âme, offenser le bon Dieu. Sainte Sabine, priez pour nous.